Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
À nos yeux d'occidentaux, la Chine symbolise souvent quelque chose de lointain et d'exotique. Cependant, nous avons tendance à oublier que l'Empire du Milieu s'étend sur près de 10 000 km² et recèle également d'un patrimoine culturel, historique et d'une diversité géographique immense. Loin des mégalopoles industrielles se love entre le lac et les montagnes, la charmante ville de Dali. Regarde ailleurs vous emmène à la rencontre de Jean-Yves, un Français expatrié depuis plus de 10 ans dans cette jolie petite ville de Dali dans la province du Yunnan. Dans cette deuxième partie de l'émission, Jean-Yves nous présente son quotidien de guide, son quotidien en tant que guide montagne dans le Yunnan. Comment est-ce que tu présenterais ton métier? C'est quoi? Donc, tu as une agence de trek, mais ça consiste en quoi? Est-ce qu'elle s'adresse donc apparemment pas seulement au public européen ou étranger, puisque tu guides aussi des Chinois. Donc, quel est ton métier aujourd'hui? Comment est-ce que tu auras envie de le partager?
Alors, l'activité principale de l'agence, il s'agit d'organiser des séjours de randonnée pédestre et bientôt aussi à cheval, mais essentiellement pédestre, de quelques heures, ça commence d'une après-midi, mais on le fait de moins en moins, jusqu'à plusieurs semaines. On a guidé un client pendant 39 jours, je me souviens, il y a quelques années, dans la province du Yunnan et celle du Sichuan, ce qui est plus grand que la France, pour le coup, ça fait presque deux fois la France. Par ailleurs, en fait, ma femme et moi sommes enseignants apprentis de yoga. Et donc c'est par le biais du yoga et de l'enseignement du yoga que j'ai rencontré des Chinois, me sachant aussi guide de randonnée, m'ont posé des questions et ont fini par me demander de les emmener. Donc j'ai pu emmener un certain nombre de fois des clients ou des randonneurs chinois, mais eux ne sont pas venus directement par le site ou le bouche à oreille d'une agence de randonnée pédestre.
Est-ce qu'on randonne aussi ici en Chine? Donc tu disais ton grand-père était déjà guide de montagne. C'est vrai qu'en France, la randonnée, beaucoup de gens randonnent. Culturellement, c'est quelque chose qu'on aime faire, de la balade. Mais je sais que je m'étais retrouvé au Japon et quand je disais je me baladais en montagne, personne ne comprenait cette idée d'aller se promener dans la montagne. Pourquoi faire? Ici en Chine, est-ce qu'on fait de la randonnée ou pas?
Combien de fois j'expliquais aux Chinois que j'allais monter en haut de la montagne à pied et ils me demandaient mais pourquoi tu prends pas ta voiture ou le télécabine qui est sur la montagne d'à côté? Ça vient, ceci dit, dans les grandes villes, beaucoup à Pékin et ailleurs, il y a des clubs de randonnée qui se mettent en place et les Chinois découvrent plus en profondeur les sports de nature, une activité de randonnée. C'est beaucoup encore le fruit du marketing des grandes entreprises américaines ou françaises ou ailleurs qui vont organiser des compétitions, organiser des événements. C'est souvent beaucoup une histoire de performance, c'est souvent de l'escalade, de la cascade de glace, des marathons, des choses qui, pour le coup, nécessitent un chrono, une ligne d'arrivée ou un drapeau en haut de la montagne. Donc pour le coup, ça s'écarte quand même de la randonnée, en tout cas de celle que je vis, où l'idée est à l'inverse de prendre le temps et d'écouter la nature, les gens, le contexte, l'environnement, sans nécessairement vouloir battre des records. On peut toujours se faire plaisir et se faire un chrono ou compter ses mètres de dénivelé montée ou descente, mais c'est quand même pas l'essentiel. Donc les Chinois s'y mettent progressivement. Là encore, peut-on parler des Chinois? Une partie des Chinois, on pourrait dire une partie des Pékinois ou une partie des gens de Chengdu ou ceux de Kunming, qui pour le coup, capitale du Yunnan, a accès aux montagnes bien plus facilement. Oui, il y a nécessairement, et on commence à en voir en Europe, on commence à rencontrer quelques Chinois sur les sentiers de marche, sur les sentiers de petite ou de grande randonnée. Mais statistiquement on est très très loin d'un pays comme la France avec une population où je crois presque un quart de la population randonne au moins une fois par mois, c'est colossal. J'ai essentiellement une clientèle francophone, beaucoup de Français, beaucoup de Canadiens, de Belges, de Suisses, et une grosse clientèle anglophone, beaucoup d'Asie, d'Australiens, de Néo-Zélandais, et pour le reste après du reste du monde, des Sud-Africains ou ailleurs. C'était essentiellement d'abord un site internet en français et en anglais qui m'a fait connaître, ainsi que mes associés. J'ai la chance maintenant d'avoir une réputation qui me précède et un site internet un peu en désuétude. Il faut chercher un peu plus pour le trouver maintenant, considérant que beaucoup de gens qui sont venus en fait ont parlé de nous et de notre activité. Et là, depuis 2-3 ans, depuis que je suis père d'une petite fille, on s'est mis à organiser des randonnées famille. Et une énorme quantité de familles en Asie, d'expatriés, mais aussi de gens de voyage, se réjouissent de pouvoir vivre la nature et la montagne avec leurs enfants, dans un contexte sûr, qui plus est quand on ne parle pas la langue du pays. Et donc on organise de plus en plus de virées en famille, sur quelques jours, sur une semaine, sur deux semaines. Pour autant, on a aussi quelques serial trekkers qui se font 3-4 expéditions par an et qui beaucoup nous contactent pour tel ou tel sommet ou telle épopée qu'on peut vivre dans l'Yunnan ou au Sichuan.
Comment est-ce que tu construis tes itinéraires ?
Alors maintenant que je parle un petit peu mieux chinois qu'avant, on va commencer par demander aux locaux, aux habitants des montagnes, comment on passe de tel ou tel village, est-ce que c'est des petits sentiers, est-ce que c'est la grosse piste, est-ce que c'est un chemin, une route bitumée, j'ai entendu parler d'un lac en altitude, est-ce que c'est joli, tiens mais là-bas de l'autre côté du fleuve, comment on fait pour y aller, vous avant que la route ne vienne jusqu'ici, vous y alliez à pied, est-ce que vous connaissez encore le chemin, de fil en aiguille. Le plaisir aussi de marcher, d'errer, de vagabonder, prendre un chemin sans savoir où est-ce qu'il nous mène, avec l'espoir d'avoir un village derrière le col, ou sinon de sortir une tente ou un bivouac et dormir à la belle étoile. De fil en aiguille, un peu d'expérience aide, et puis maintenant des cartes comme celle de Google Earth ou Google Maps même parfois nous donnent des noms, des idées supplémentaires. Et donc on explore de plus en plus de montagnes, de plus en plus de sentiers, et après on consolide, on établit combien de temps pour aller à tel endroit, combien de mètres de dénivelé, est-ce que c'est raisonnable pour quelqu'un de peu entraîné, est-ce que pour un Shanghaïen ou un Parisien qui vit au niveau de la mer, qui va arriver à 2000 mètres d'altitude à Dali, le plancher des vaches, et qui voudrait aller monter à 4500 mètres dans les massifs tibétains, dans l'Himalaya, est-ce que c'est raisonnable, oui, non, combien de jours d'acclimatation est requis. Donc après on dessine progressivement des itinéraires pour amener les gens à vivre la montagne. Alors bon, quand les gens ont 10 jours, 15 jours, 3 semaines devant eux, c'est l'idéal, parce que pour le coup la première semaine leur permet de s'adapter, de se faire la main, de faire plus de globules rouges, d'avoir leurs organes qui s'adaptent, de retrouver leur rythme, d'absorber le décalage horaire aussi qui compte. Et après, là, on peut monter en altitude progressivement, gentiment. Un peu comme en plongée sous-marine, où on a des paliers respectés. On a ça aussi un peu en moyenne et haute montagne. Et c'est ça qui nous permet de faire venir les gens ici et de leur faire passer leurs premiers 4000, qui, pour certains, sont très fiers, parfois les larmes aux yeux. Et d'amener les gens, en fait, à dépasser la dimension strictement chiffrée des milliers de mètres ou des milliers de pieds d'altitude, pour nos amis anglo-saxons, mais de les amener à comprendre à quoi mène la marche. Qu'y a-t-il derrière le col ou le sommet ? Alors évidemment, une autre montagne, un autre sommet, parfois un village et une soupe de poulet délicieuse, mais c'est aussi un rapport au monde. Et c'est là où ça retrouve, où je retrouve la dimension de méditative du yoga, ou des arts martiaux que j'ai pratiqués avant, où pour le coup, il y a une dimension... d'introspection ou de relecture ou de retour sur soi. Là où une marche de quelques heures juste lundi dimanche vous amène à vous changer les idées, une marche de quelques jours vous aidera à déconnecter du quotidien, de la connexion sans fil, de la 3G ou du Wi-Fi, du fournisseur, du patron, ou des tensions familiales ou autres. Et puis quelques jours de plus, et là vous êtes en immersion dans une nature où il n'y a plus aucun signe de vie humaine. Juste à compter sur vous-même et sur votre guide. Et là, on retrouve un rapport à soi, un rapport à l'essentiel, un rapport à la fois à la nature et à l'humain. Et ce rapport-là, cette démarche-là, pour les gens qui acceptent de la vivre et qui se donnent les moyens de prendre suffisamment de semaines, qui peuvent se permettre de rassembler un peu d'argent pour payer le billet d'avion et payer un guide après, sont des gens qui, en général, ne regrettent pas leur voyage.
C'est toi qui guides encore les groupes aujourd'hui ou tu as une équipe ?
Je guide encore et je ne laisserai pas le plaisir de guider à mes guides sans y être de temps en temps. Je continue de dessiner les itinéraires. Je prends encore la responsabilité aujourd'hui de définir un itinéraire. Une question que je pose parfois à mes amis ou mes clients est de savoir quelle est la durée de vie d'un sentier de marche en montagne en Chine. Alors se poser la question de la durée de vie d'un sentier de marche, c'est un peu surprenante, parce qu'on imagine le GR20 éternel ou le chemin de pèlerinage pour Saint-Jacques-de-Compostelle éternel. Dans l'Yunnan, c'est environ 3 ans. Donc vous imaginez que tous les 3 ans, un chemin sur lequel on a marché n'est plus apte, soit des glissements de terrain, des accidents ou des éléments naturels, mais aussi beaucoup de nouvelles routes, de nouvelles bretelles d'autoroutes, de voies rapides, de voies ferrées, de télécabines. Ici et là, le gouvernement chinois aime beaucoup mettre des télécabines pour amener les Chinois à vivre la nature et la montagne dans un contexte très organisé. Donc pour le coup, mais il nécessitait d'explorer, de renouveler les sentiers de marche. Et ça suppose un minimum d'expérience et une forme de responsabilité, parce qu'on n'emmène pas les gens n'importe où. On a encore des animaux sauvages dans l'Yunnan, des ours, des loups et d'autres animaux, et il faut être vigilant à mettre les pieds d'aller là où c'est raisonnable, de ne pas prendre de risques exagérés. Donc je guide encore, et j'ai aussi plaisir de me faire ce passeur-là, quand devant un tangka, une peinture traditionnelle tibétaine dans tel ou tel monastère tibétain du nord Yunnan, j'ai le plaisir d'expliquer la position des mudras, la position des mains de tel Bouddha ou de tel Bodhisattva, et d'expliquer finalement pourquoi les inscriptions curieuses qu'on a aux abords d'une maison renvoient à un rite chamanique ou à une langue, celle des Inuosu, celle des Nashi, qui sont des langues millénaires. Il y a à la fois un plaisir et puis aussi une nécessité d'entretenir. Si je finissais devant l'ordinateur à faire des devis, si je finissais à rester dans ma jolie maison à Dali sans courir la montagne, je m'ennuierais quelque part.
Shalom aleichem, Eben Shalom aleichem, Eben Shalom aleichem.
plusieurs reprises dans cet échange, tu parles du Tibet. Tu en parles comme j'ai l'impression d'être une entité à part entière. Quelle est ta vision du Tibet? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'histoire de ce sujet assez sensible ou même très sensible ici en Chine? Et c'est peut-être aussi sur la demande, est-ce que tu as beaucoup de Français qui ont le souhait d'aller au Tibet et est-ce que c'est possible?
Oui, alors j'ai beaucoup de Français et beaucoup d'étrangers en général qui souhaitent aller au Tibet, qui souhaitent mieux le comprendre, s'y rendre, ce qui n'est pas une chose facile. Bonne part du Tibet n'est plus complètement interdit comme il l'a été au 19e et début 20e siècle, mais qui pour le coup est quand même d'un accès très réservé, très strict. On est tenu aujourd'hui pour aller au Tibet administratif, à Lhasa par exemple, d'avoir un guide chinois ou tibétain, licencié, un chauffeur, et d'aller dans des lieux définis.
Donc si demain avec mon visa tourisme chinois valable un mois, je décide d'aller seul au Tibet, je ne peux pas?
Non, concrètement non, il faut demander un permis. Et pour le coup, c'est une démarche administrative qui prendra quelques jours ou quelques semaines et pour lequel il faut s'être préparé à l'avance.
Pourquoi est-ce qu'il faut ce permis? Quelle est la raison?
A priori, le gouvernement souhaite garder un contrôle sur ces zones qui sont des zones sensibles. Une partie de la population en Chine n'est pas toujours satisfaite de son sort. Et le gouvernement tient absolument à garder un contrôle sur le toit du monde, sur cette région, cette province administrative gigantesque qui regorge de ressources en eau, ressources minérales, et qui, d'un point de vue géostratégique, géopolitique, est crucial en Asie. Mais une chose qu'il est important de bien saisir sur la question tibétaine, c'est que comme la Chine, le Tibet, lui, n'est pas homogène non plus. On imagine les Tibétains, peuple pacifiste, on a en tête l'idée de quelques lamas en Europe qui sont particulièrement et justement reconnus et respectés, mais le Tibet c'est au moins 40 groupes ethniques qui ont des langues et des coutumes différentes, parfois des religions différentes. Le Nord Yunnan fascine aussi par des Tibétains catholiques, on a quelques Tibétains musulmans ici et là. Et bien sûr des Tibétains bouddhistes, mais au sein même du bouddhisme, de quelle école parlons-nous? Des bonnets jaunes, des bonnets rouges, de la voie orthodoxe? Parlons-nous des Bön, qui est la religion ancestrale des Tibétains et qui se distingue très significativement des autres? Et donc tel lama sera reconnu par tel groupe de Tibétains, mais pas par d'autres. Telle montagne sacrée attirera tel pèlerin, mais d'autres montagnes attireront d'autres pèlerins. Et si on reprend les 3-4 grandes régions historiques, la région de Yutsang, qui donne maintenant le Tibet administratif, la région du Kham et la région de l'Amdo, qui vont après donner, grosso modo, le nord du Yunnan, l'ouest du Sichuan, et puis, dans un deuxième temps, la province du Qinghai, on a des Tibets qui n'ont rien à voir, avec des Tibétains qui ne s'apprécient pas toujours entre eux. Et il n'est pas rare de voir des Tibétains s'apostropher, voire dans des contextes un peu plus alcoolisés, se battre. Les Tibétains ont le sang chaud et la situation des Tibétains en Chine n'est pas toujours confortable. Et donc, alcool, chômage aidant, on peut être amené à vivre des expériences un peu particulières. L'idée aussi, c'est que le Nord Yunnan est 100% tibétain, l'ouest du Sichuan est 100% tibétain, le Qinghai il est quasi exclusivement, et ce sont des Tibets qui sont tous différents les uns des autres. Est-ce que vous voulez aller voir le Tibet des hauts plateaux? Est-ce que vous voulez aller voir le Tibet des canyons, des gorges, d'une végétation luxuriante? Le Tibet des grands fleuves, du fleuve Mekong, du fleuve Yangtze, de la Salween, de la rivière Dulong, qui est l'un des affluents de l'Irrawaddy? Vous avez énormément une diversité alors ethnique bien sûr, mais aussi géographique, une biodiversité incroyable que d'ailleurs l'UNESCO et d'autres organismes internationaux ont reconnu. Venir vivre le Tibet dans le Yunnan n'est pas le même que le Tibet du Sichuan, que le Tibet de Lhasa ou le Tibet du Grand Ouest tibétain, que celui du Qinghai, de Xining, de Lanzhou. Tous ces Tibétains ont leur histoire, leur message aussi. Donc avoir en tête cette image d'un Tibet beaucoup plus complexe que l'image d'Épinal qu'on peut avoir, et puis aussi comprendre que les Tibétains de l'extérieur, les Tibétains qui ne sont plus au Tibet, ceux qui ont émigré, ont un rapport aussi au Tibet qui est différent de celui que les Tibétains de l'intérieur ont. Les Tibétains du nord de l'Inde, les Tibétains en exil, les Tibétains de France ou des États-Unis ou d'ailleurs, de Suisse, vivent aussi beaucoup dans l'espoir ou dans le souvenir, dans la mémoire, n'ont pas, concrètement parlant, la possibilité de revenir en Chine ou au Tibet, sauf à avoir un passeport qui le leur permet.
Mais il y a quelque chose que je comprends. Un Tibétain en exil ne peut plus rentrer chez lui parce qu'il n'a pas de passeport chinois. Donc le Tibet est un pays à part entière, a été un pays à part entière. Historiquement, comment se positionne cette région qui est dite autonome aujourd'hui ?
Alors, au risque de faire des raccourcis très très réducteurs, mais qui pour le coup donnent quand même à penser, il faut se replonger dans l'histoire chinoise des 1000 dernières années. Donc si on reprend les trois grandes dynasties chinoises, la dynastie mongole des Yuan, la dynastie Han chinoise des Ming et la dynastie Manchu des Qing, les Yuan, donc les Mongols et les Manchus, ont régné sur l'empire chinois sans être chinois eux-mêmes. Donc on est dans un contexte jusqu'en 1912, avec la fin des dynasties et de la dernière dynastie Manchu, dans un contexte d'une Chine où les dirigeants, les empereurs, bien qu'ils se soient extrêmement sinisés, n'étaient eux-mêmes pas chinois, ethniquement parlant, génétiquement parlant. Quand on a ça en tête et qu'on se replonge dans l'histoire du Tibet, de la Mongolie, de tous ces peuples nomades d'Asie, le Tibet a rejoint ou intégré le giron chinois, le grand monde chinois, à une époque où les Mongols en place leur avaient laissé une liberté de circulation, mais une liberté de vie, au sens général du terme, assez grande. Et les empereurs de l'empire chinois, mais qui pour le coup étaient donc mongols, ont épousé le bouddhisme tibétain, le lamaïsme. Et donc une relation spirituelle, temporelle, très particulière s'est instaurée avec un accord plus ou moins explicite. De Tibétains qui ont accepté le jeu de l'empire chinois dirigé par des Mongols. Mais quand la dynastie suivante des Ming a repris le pouvoir, tous les Tibétains n'ont pas forcément été d'accord. Certains ont repris leur indépendance ou leur autonomie, d'autres sont restés plus fidèles à leurs ancêtres. Le retour d'une dynastie Manchu, les Qing, qui de nouveau remet sur la table le fait qu'on est dans une Chine dirigée par des non-chinois, en tout cas ethniquement parlant, qui pour le coup se siniseront beaucoup par la suite. La matrice culturelle chinoise est très très puissante et tous les dirigeants chinois ou pas chinois ont fini par se ressembler et à jouer le jeu d'une culture chinoise qui n'a eu de cesse de se préserver et de se développer. Mais donc le Tibet a rejoint en pointillé ici et là le grand monde chinois, ce qui n'a pas toujours fait le plaisir ou le bonheur des uns et des autres. Mais donc aujourd'hui, dans un contexte où le chinois est solidement rattaché à la Chine maintenant, les sensibilités persistent, la frustration de certains persiste, et le gouvernement œuvre envers et contre cela. Le Tibet se développe énormément. Beaucoup d'amis tibétains dans le nord Yunnan m'ont dit explicitement plusieurs fois combien ils pouvaient apprécier d'emmener leurs enfants à l'école, d'avoir accès à des hôpitaux, d'avoir sauvé le grand-père malade. Donc on n'est plus dans une image binaire. Certaines écoles tibétaines peuvent enseigner en tibétain.
Donc ça c'est vrai, parce que nous en France on a cette image de la Chine comme un gros rouleau compresseur qui est en train de complètement détruire le Tibet, empêcher les Tibétains de parler leur propre langue, enfin en tout cas c'est ce qu'on entend, ce qu'on voit, ou c'est pour ça que militent les associations en France.
Alors il y a mille et une manières de militer pour le bonheur et le soutien des Tibétains, et je pense qu'il est plus efficace de faire ça de l'intérieur en Chine et au Tibet que d'extérieur. Mais à l'inverse, on est parfois tellement déconnecté, et j'ai pu voir des campagnes de Free Tibet en Europe qui étaient complètement à côté de la plaque avec des Tibétains de l'intérieur qui haussaient les yeux ou les épaules. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur donner le soutien dont ils ont besoin, et un soutien qui est crucial par ailleurs. Mais c'est un soutien qui se doit d'être beaucoup plus fin et subtil dans un contexte extrêmement complexe. Oui, la matrice culturelle chinoise s'apparente parfois à un rouleau compresseur et ne laisse pas forcément beaucoup de place à la différence ou à toutes les voix dissonantes. Pour le coup, pour autant, une circonscription administrative en Chine qui est peuplée, suffisamment peuplée de groupes ethniques Nashi, Bai, Tibétains, Hui ou autres, vont avoir un certain nombre de droits qu'on va appeler d'autonomie sur, par exemple, l'enseignement. Et donc, on peut, dans certains cas de figure, avoir un enseignement en tibétain ou dans une autre langue. Le fait est, c'est que les universités, elles, non, sont en chinois. De fait, un tibétain qui va étudier aura tout intérêt à apprendre dès le départ la langue chinoise et à la maîtriser, vu que ce n'est pas sa langue maternelle, pour s'espérer faire de belles études. J'ai pu voir des amis tibétains et à leur reprocher, mais, ou à leur poser la question, mais pourquoi parlez-vous chinois entre vous ? Alors certains me diront, mais parce qu'il y a tellement de dialectes tibétains que lui et moi ne parlons pas le même dialecte. Pour le coup, c'est le chinois qui nous sert de langue de partage et de communication. Mais pour d'autres, qui venaient de la même ville, parlaient en chinois à leurs enfants et entre eux, à côté de leurs enfants. Et la question était plus de dire, mais oui, mais je veux que mon enfant maîtrise la langue chinoise suffisamment pour qu'il ait la chance de faire de belles études et d'avoir un emploi meilleur que le mien. Donc le rouleau compresseur est à l'œuvre, il n'y a pas doute sur la question. Et des pays comme la France ou de grands pays développés ont eu aussi leur époque de rouleau compresseur. C'est beaucoup plus visible, parfois peut-être aussi plus douloureux actuellement ici, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi une Chine de liberté relative. C'est le paradoxe d'un système centralisateur, d'un système très, très, très dur ici, où finalement, en fait, on a paradoxalement beaucoup plus de liberté dans d'autres pays. Moi-même, ici, je me suis senti beaucoup plus libre de monter cette agence et de me retrouver avec d'autres amis à monter des projets dans d'autres domaines que je ne l'aurais fait en France. Il y a un dynamisme ici, il y a une vitesse, China Speed. Les choses se passent très très vite, dans le bon comme dans le mauvais sens. Si on sait prendre la vague, si on sait surfer sur la bonne vague, on peut avoir accès ici à beaucoup de choses. Et bien sûr, plus on joue le jeu de la langue et de la culture, plus on joue le jeu des règles du jeu finalement, plus on vit cette Chine de l'intérieur.
Question, qu'est-ce qui fait, Jean-Yves, que tu choisisses de rester ici ? Pourquoi est-ce que 10 ans plus tard, tu es toujours en Chine ?
Un mariage déjà, une femme et une fille chinoise, joue certainement beaucoup dans la balance. Encore énormément de montagnes, des centaines et des centaines de montagnes à parcourir. Une culture chinoise fascinante, qui est extrêmement enrichissante. Les arts martiaux, la calligraphie, la peinture chinoise. Et puis le quotidien. Ici à Delhi ou à Shanghai parfois, quand je rentre à Shanghai, avec ma belle famille aussi. Un plaisir de la vie commune, du jeu. Allez, sortons une grande généralité, les Chinois sont rigolards et souriants et aiment jouer et aiment discuter et aiment vivre avec. Pas plus tard qu'il y a une heure dans le bus pour venir ici, un papy de 85 ans parle quelques mots d'anglais et trop content de m'adresser la parole et de me demander ce que je fais et ce que je vis. Et je lui réponds en chinois et malgré son anglais balbutiant, persiste et continue de parler en anglais. Trop heureux d'exercer son anglais et de se lier à moi. La Chine est aussi un pays d'accueil qui, si vous jouez le jeu, vous le rend bien.
Merci Jean-Yves.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.